Chers amis, chers camarades, tout le monde le dit, cette élection ne passionne pas les classes populaires. Et pour cause, le Parlement européen, bien plus encore que les parlements nationaux, n'est qu'un moulin à paroles, une chambre d'enregistrement de décisions prises au niveau des différents chefs d'État européens qui sont tous au service du grand patronat, quelle que soit leur couleur. Mais les travailleurs doivent profiter de cette campagne électorale pour s'exprimer. Les élections européennes leur donnent l'occasion de faire entendre leur colère contre la politique du gouvernement et de dénoncer l'exploitation patronale. Elles permettent de montrer qu'il y a des travailleurs qui ne se résignent pas et qui profitent de toutes les circonstances, y compris les élections, pour se faire entendre. C'est pour cela que nous présentons des listes dans les 7 circonscriptions de la métropole, ainsi que dans la 8e, celle des territoires d'outre-mer, avec nos camarades de combat ouvrier. Aux côtés de 25 colistiers, je conduis donc la liste dans le Sud-Est, cette étrange circonscription qui regroupe les régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Voilà 2 ans que Hollande a été élu. En ayant expliqué à des millions de travailleurs, dégoûtés de Sarkozy, qu'il allait apporter le changement. Eh bien, finalement, on peut dire qu'il s'est montré pire que Sarkozy. Plus dur encore et plus brutal contre le monde du travail, les retraités et les pauvres en général. Plus dur parce que la crise s'aggrave et que les capitalistes en demandent toujours plus. Depuis 2 ans, comme avant sous Sarkozy ou les autres, le MEDEF exige, Hollande exécute. Le patronat rêvait de remettre en cause le CDI, de licencier plus facilement et de revenir sur les acquis. Hollande l'a réalisé en transformant en loi l'ANI, l'accord national interprofessionnel, rédigé par le MEDEF et signé par quelques syndicats. Le PS, dans l'opposition, avait dénoncé la réforme des retraites de Sarkozy. Au pouvoir, Hollande l'a aggravé. Les patrons estimaient qu'ils payaient trop d'impôts, Hollande leur a offert le crédit impôt compétitivité emploi. Insuffisant, il a inventé le pacte de responsabilité qui offre de nouvelles exonérations d'impôts et de cotisations sociales. Des milliards de cadeaux aux entreprises qui manqueront au budget public, à la sécurité sociale, mais qui iront grossir les dividendes des actionnaires sans créer d'emplois supplémentaires. Malgré la claque électorale subie par le Parti socialiste au municipal, Hollande a montré clairement qu'il allait poursuivre, en l'aggravant, la même politique. Car Hollande est comme tous les autres hommes politiques au pouvoir. Ils sont prêts à tout perdre, tant est absolu leur dévouement à la grande bourgeoisie, au grand patronat, que ce dévouement leur coûte leur popularité et la plupart du temps la certitude de ne pas être réélu. La prochaine fois, ils le savent, c'est la règle du jeu. En choisissant Valls comme Premier ministre, il a montré qu'il allait poursuivre en l'aggravant sa politique anti-ouvrière. Car il a choisi, comme chef de gouvernement, celui qui a affiché les positions les plus droitières dans le Parti socialiste, celui qui a dénoncé les 35 heures comme un boulet au pied du patronat, celui qui a singé Sarkozy comme premier flic de France, allant jusqu'à dénigrer les Roms incapables de s'intégrer selon lui. Eh bien, la nomination de Valls est un véritable bras d'honneur aux classes populaires. C'est une manière de nous dire « vous en bavez déjà, vous allez en baver encore plus ». Et en effet, dès le lendemain de son arrivée à Matignon, Valls a annoncé un plan de 50 milliards d'économies faites uniquement sur le dos de la population. D'un côté, la suppression totale de cotisations sociales pour les patrons qui exploitent des travailleurs au SMIC. De l'autre, l'augmentation des taxes, impôts et charges qui accablent les travailleurs. D'un côté, des baisses d'impôts sur les entreprises et les bénéfices. De l'autre, la destruction programmée des services publics, la suppression de milliers de postes de fonctionnaires et le gel de leurs salaires, mais aussi le gel des pensions, déjà misérables pour beaucoup. Jamais encore, depuis l'accession de Hollande au pouvoir, qui pourtant en avait fait déjà beaucoup, n'avait été exprimée avec autant de cynisme et d'arrogance la volonté du gouvernement de faire payer les faibles pour enrichir encore un peu plus les riches. Mais aujourd'hui, si un valse peut fanfaronner et rouler des mécaniques, si les représentants des patrons eux-mêmes, comme Gattaz, peuvent se permettre de vouloir remettre en cause jusqu'à l'existence du SMIC, c'est uniquement parce qu'ils ne rencontrent aucune opposition réelle, parce qu'ils n'ont pour l'instant pas à faire face à ce qu'ils craignent par-dessus tout, une réaction massive, collective, explosive du monde du travail. Tant qu'une telle réaction n'aura pas lieu, le gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, et en coulisses le grand patronat, continueront de porter les coups. Cette réaction, il ne faut pas compter sur les confédérations syndicales pour l'organiser. Aujourd'hui, c'était les agents SNCF qui étaient appelés à la grève. Jeudi dernier, pour l'essentiel, seules les fédérations syndicales de la fonction publique appelées elles aussi à la grève et à la manifestation. Les dizaines de milliers de grévistes qui ont manifesté ce jour-là un peu partout dans le pays contre le blocage des salaires, contre l'austérité et la dégradation de leurs conditions de travail ont eu mille fois raison. Mais cette journée aurait dû servir de point de ralliement à tous ceux qui subissent les attaques du gouvernement, qu'ils soient salariés du public ou du privé, qu'ils soient retraités ou chômeurs. La provocation de Valls aurait exigé une riposte immédiate de la part des directions des centrales syndicales, ne serait-ce qu'un langage ferme pour affirmer qu'il n'est pas question de les accepter. À la place, les travailleurs n'ont eu droit qu'aux lamentations d'un berger de la CFDT et les pleurnicheries de Le Pen et Mailly pour la CGT et FO, contre ce gouvernement qui, pour reprendre leur expression, se trompe de direction. Certes, les directions syndicales, pas plus que quiconque, n'ont les moyens de déclencher la riposte collective, massive, explosive, qui seule peut faire reculer gouvernement et patronat. Mais elles devraient la préparer en expliquant clairement que ce gouvernement est un adversaire dont on ne doit rien attendre, sinon des coups. Elles devraient proposer un plan de riposte. Elle devrait chercher à unifier les luttes défensives qui se déroulent un peu partout contre les fermetures d'entreprises plutôt que de les laisser s'émietter. En s'y refusant, elles entretiennent la démoralisation et la lassitude, y compris parmi bon nombre de militants et de syndiqués. En acceptant de négocier sur le terrain choisi par le patronat et le gouvernement, les chefs des confédérations syndicales, qui se posent pourtant en représentants du monde du travail, montre qu'ils sont mille fois plus proches des dirigeants de la bourgeoisie qu'ils ne le sont des travailleurs. Au fil des élections, les gouvernements se relaient, les têtes changent, mais les lois et les mesures mises en œuvre vont toutes dans le même sens. Servir les intérêts de la toute petite minorité de privilégiés qui possèdent les usines, les banques, la grande distribution. Et à chaque nouveau gouvernement, les coups contre les travailleurs sont plus durs, car la crise s'aggrave. Comme le marché capitaliste ne s'étend pas, et même qu'il se rétrécit, entre autres à cause du chômage et de tous les plans d'austérité qui réduisent le pouvoir d'achat des consommateurs, la concurrence entre les groupes capitalistes s'intensifie. Ils cherchent à baisser toujours plus leurs coûts de production pour maintenir, voire augmenter leurs profits, sans créer de nouvelles richesses, sans innover, sans investir dans la production. C'est cela qu'ils appellent la compétitivité. Leur compétitivité, cela signifie des salaires toujours plus bas, des rythmes de travail toujours plus intenses, une précarité toujours plus grande. Leur compétitivité, cela signifie que le chômage s'aggrave, que notre pouvoir d'achat recule, que les nouvelles générations vivent plus mal que les précédentes. Leur compétitivité, c'est un État à leur disposition, prêt à les aider par tous les moyens, en prenant dans les caisses publiques, en s'endettant, en privatisant des pans entiers de services publics, en fermant des hôpitaux, des écoles, des postes, en diminuant les prestations sociales, etc. Quand Valls répète avec cynisme « Nous vivons au-dessus de nos moyens depuis des décennies », c'est pour justifier de nouvelles attaques contre les classes populaires. Car qui vit au-dessus de ses moyens? Les salariés dont le pouvoir d'achat est rogné d'année en année? Le smicard qui n'y arrive plus? Les précaires, les jeunes qui galèrent avec des petits contrats ou des temps partiels? Les retraités aux pensions insuffisantes, ceux qui gagnent 700, 800 euros par mois. Les chômeurs, les titulaires du RSA, qui doivent se débrouiller avec des allocations de survie. Les personnes handicapées avec un maximum de 700 euros par mois pour vivre. Les petits paysans, artisans, commerçants, prêts à mettre la clé sous la porte. Bien sûr, Valls ne parlait pas des grands patrons et des financiers, qui, eux, ne savent plus quoi faire de leurs milliards et n'en ont jamais assez. Non, Valls ne parlait pas de ces gens-là, car il en est le serviteur. Les inégalités n'ont jamais été plus criantes entre la petite minorité de possédants et la grande majorité de la population. Oui, pour les capitalistes, ça déborde. Il y a tellement de liquidités que les capitalistes ne savent plus où investir leurs milliards. Les opérations de fusion-acquisition sont reparties de plus belle. Pour racheter SFR, Numérique Câble a rassemblé plus de 13 milliards d'euros. Bouygues a surenchéri, en vain certes, mais en mettant 15 sur la table. Et aujourd'hui, le même Bouygues qui prépare ouvertement un plan de 2000 licenciements dans la téléphonie, soit le quart des effectifs, nous dit qu'il n'a pas les moyens de maintenir tous les emplois. Bouygues, encore lui, veut retirer ses billes du groupe Alstom dont il possède 30% du capital. Cela a ouvert l'appétit de deux géants de l'électricité, General Electric et Siemens, qui ont chacun sorti de leur poche plus de 10 milliards d'euros pour acheter la branche énergie du groupe Alstom. Souvenez-vous au passage, pour les Grenoblois, que Siemens vient de fermer une usine à Grenoble. Mais 10 milliards d'euros, ce qu'ils sont prêts à mettre sur la table, c'est le coût de construction d'une centaine d'hôpitaux de 200 lits chacun. Dernièrement, un des actionnaires de la dynastie Muliez, ses propriétaires de nombreuses chaînes de commerce, ici et dans le monde entier, Auchan, Decathlon, Attac, et j'en passe, a répondu à une interview sur Arte, ce qui, en passant, est plutôt rare, hein, parce que dans ce monde-là, celui des grands bourgeois, on cultive plutôt la retenue et la discrétion. Interrogé sur le montant de sa fortune, il a répondu « Je ne sais plus, ça bouge tout le temps. Je crois 28 milliards. » Mais cela n'empêche pas ce fervent catholique, exilé fiscal en Belgique, de critiquer le système français qui favorise l'assistanat et, d'après lui, encourage ceux qui ne veulent pas se lever le matin. Quant aux 1138 morts du Bangladesh dans la catastrophe de l'usine textile du Rana Plaza, des ouvriers qui travaillaient entre autres pour les marques de son groupe, Régis Muliez a expliqué froidement, je cite, « On ne va pas se mentir en disant qu'on va arranger les choses ». Car qui, aujourd'hui, parmi les investisseurs, est capable de payer 1 euro de plus les gars du Bangladesh? C'est la même rapacité et le même cynisme de ces patrons qui vient de provoquer une catastrophe dramatique dans une mine de Turquie. La mort de plus de 300 mineurs n'a rien à voir avec la fatalité, comme a osé le dire le Premier ministre turc Erdogan, un proche du patron de la mine. Ce n'est pas la fatalité qui a tué, mais le profit. Le patron qui gérait cette mine au nom de l'État a fait baisser le prix de revient de la tonne de charbon de 130 dollars à 23,8 dollars. Pour y parvenir, il a accru l'exploitation. Il a réalisé des économies sur les mesures de sécurité, réduit le nombre d'ascenseurs dans la mine, n'a pas construit de chambres de sécurité. Il embauchait un grand nombre de travailleurs non déclarés, dont des sous-traitants et des jeunes de 15 ans. Cet accident dramatique n'est pas le premier dans les mines de Turquie. Alors nous exprimons notre solidarité avec les travailleurs turcs et nous tenons à affirmer combien nous partageons leur révolte. Eh bien, si nous ne voulons pas être sacrifiés sur l'autel des profits capitalistes, Si nous ne voulons pas être ainsi inexorablement poussés vers la misère, il va falloir nous battre avec nos propres armes de classe, les grèves, les manifestations et en utilisant notre poids social dans l'économie. Oui, nous les travailleurs aurions largement la force de lutter contre le patronat et les gouvernements à sa botte. Car sans nous, sans notre travail à tous, rien ne fonctionnerait. Oui, nous aurions la force d'imposer le retrait de toutes les mesures anti-ouvrières du plan Valls et plus généralement de toutes les mesures prises depuis l'accession de Hollande au pouvoir comme celles prises sous Sarkozy et les autres avant. Souvenez-vous, en 1995, d'un Juppé, droit dans ses bottes au départ, obligé de remballer sa réforme sur la retraite des fonctionnaires à cause du mouvement de grève. Ce qui manque actuellement à la classe ouvrière, c'est la confiance dans sa force collective, dans sa capacité à lutter. C'est la conscience claire de qui sont ses vrais ennemis. C'est la conviction qu'il n'y a rien à attendre d'un changement de gouvernement, qu'il n'y a pas de sauveur suprême, quel qu'il soit, et qu'il faudra compter que sur nos propres forces. Bien sûr, on ne peut pas déclencher artificiellement de telles luttes. Bien sûr, chacun peut mesurer autour de lui, dans son entreprise, parmi ses proches, la démoralisation et la résignation. Mais ce qui est possible et nécessaire, c'est d'affirmer sa conviction que notre avenir passe par de telles luttes, c'est d'en défendre autour de soi les objectifs vitaux. Alors, c'est précisément la raison d'être de notre liste dans ces élections européennes. Exprimer et propager les objectifs pour lesquels les travailleurs devront se battre à l'avenir. Les faire approuver par le plus grand nombre d'électeurs. Pour résorber le chômage, il faut commencer par interdire les licenciements. Le travail ne manque pas, mais les patrons font produire toujours plus, avec toujours moins de salariés, en licenciant, en fermant des usines, en intensifiant toujours plus la productivité. Dans toutes les entreprises, s'il y a moins de travail, eh bien il faut le répartir entre tous, sans diminution de salaire. Un emploi, c'est vital. Et puis il faut augmenter massivement les salaires et les retraites pour leur assurer un niveau décent. Pour garantir leur pouvoir d'achat, il faut les augmenter chaque mois en fonction de la hausse des prix. C'est cela qu'on appelle l'échelle mobile des salaires, des pensions et des allocations. C'est aux entreprises capitalistes, aux banques et à leurs propriétaires de financer toutes ces mesures. S'ils prétendent que c'est impossible, alors qu'ils montrent leurs comptes. La population pourra alors constater qu'ils regorgent d'argent tiré de l'exploitation. Oui, il faut contrôler ce qu'ils font de leurs milliards. Qui sont ces actionnaires qui empochent les profits? Où est l'argent des paradis fiscaux? Il faut supprimer le secret bancaire des affaires derrière lequel se dissimulent les mille et une manières utilisées par les grandes entreprises, la grande distribution et les banques pour aggraver l'exploitation de leurs salariés, arnaquer les petits producteurs, les artisans, les consommateurs et les usagers, mais aussi pour dégrader la nature, l'environnement. Et il y a de quoi créer des emplois dans les services publics, utiles à la population, dans l'éducation, dans la santé, les transports, pour construire les logements qui manquent, les crèches, les maisons de retraite, etc. Bien sûr, ce programme n'est pas un programme électoral. Aucune de ces mesures ne sera prise par en haut, par aucun gouvernement qui respecte le capitalisme. Ces mesures ne pourront être imposées que par une mobilisation massive et déterminée de la classe ouvrière. Ce programme de lutte dont je viens de parler peut être pris par tous les travailleurs d'Europe et au-delà, car la crise produit les mêmes dégâts partout, aggravés dans les pays les plus pauvres. Chômage, bas salaire, attaques contre les retraites, les acquis, les services publics sont le lot commun de la classe ouvrière, quelle que soit sa nationalité. Alors ici, voter pour les listes lutte ouvrière, c'est un moyen de populariser ces mesures, de montrer qu'une fraction des travailleurs en fait son programme et son objectif. Camarades et amis, dimanche prochain, soyons le plus nombreux possible pour dire que non, nous ne sommes pas résignés, que les travailleurs, les chômeurs, les retraités existent, que nous avons des exigences et que nous sommes bien déterminés à les faire entendre. Affirmons autour de nous qu'il ne faut pas laisser le monopole de l'opposition à ce gouvernement, à la droite et à nos pires ennemis, l'extrême droite. Alors il nous reste encore 2 jours pour convaincre, dans nos familles, au travail, parmi nos amis, qu'il est important et vital que dans ces élections se fasse entendre le camp des travailleurs.